Ah, c'est des obstacles et des moments d'arrêt. Il y aura des repliements. Tu vois, il y aura des complexes. Il y aura des repliements, ça c'est sûr qu'il y a des obstacles. Mais normalement, le vivant se développe. Il se développe selon un plan, selon une intentionnalité. Vous voyez, voilà ce que je veux montrer, ce que c'est que l'intentionnalité. Selon une intentionnalité, je ne peux pas la définir. Hein. Je vous montre ce que c'est, le décalage qui existe entre le vivant et l'être. Alors, vous avez une intentionnalité au niveau de la vie végétative, une intentionnalité au niveau de la vie sensible, et une intentionnalité au niveau de la vie de l'esprit. Vous avez 3 degrés dans l'intentionnalité. Et ces 3 degrés dans l'intentionnalité nous montrent chaque fois la différence qui existe entre le vivant et ce qui est. C'est difficile de saisir ce que c'est que le vivant, à cause de ça justement. C'est plus facile, vous voyez, de saisir le devenir et l'être que le vivant. C'est plus difficile de saisir ce que c'est que le vivant, parce que c'est complexe. Et que le vivant se développe dans cette intentionnalité. Il se développe dans le monde biologique, dans le monde physique, mais il se développe à travers l'intentionnalité. Un vivant, il est toujours en projet. C'est extraordinaire. Parce que je suis un projet pour demain, c'est évident. Demain, je continuerai de vivre, du moins j'espère. Et alors, je suis un projet pour demain. Et cette détermination d'être un projet pour demain, c'est quoi? Demain en moi et comment? Par mode intentionnel. Il est en moi par mode intentionnel. Oui. Et si je continue de vivre encore 5 ans, les 5 années qui vont se développer sont en moi par mode intentionnel, au niveau biologique. Mes décisions, je peux très bien faire un planning de 10 ans. C'est l'intentionnalité. Je peux prévoir 10 ans. Et quand je prévois 10 ans, c'est des décisions, je réfléchis là-dessus, c'est de l'ordre de la pensée. C'est de l'ordre de la pensée où je prévois. Et voyez bien, ce planning n'existera peut-être pas nécessairement comme ça, parce qu'il y aura des obstacles. Il peut y avoir des obstacles, parce que je ne suis pas maître de tout. Alors il peut y avoir des obstacles. Ce qui montre bien la souplesse de l'intentionnalité. L'intentionnalité n'est pas le réel. C'est pas le réel. C'est devancer le réel autant que je le peux. Je le devance au niveau biologique, je le devance au niveau sensible, je le devance au niveau spirituel. Mais je ne peux pas m'imposer au réel. Parce que, de fait, ma vie, elle présuppose l'être. Elle présuppose l'être. Ma vie n'est pas identique à l'être. Il n'y a pas d'intentionnalité en Dieu. Ça, je peux le dire au point de vue métaphysique. L'intentionnalité est uniquement au niveau de la créature. En Dieu, puisqu'il y a identification entre être et vie, il n'y a pas d'intentionnalité. Merveilleux. Dieu n'a pas de projet. Dieu n'a pas il n'anticipe pas. C'est la réalité. Il est. Tandis qu'au contraire, je suis toujours, vous voyez, dans une espèce d'intentionnalité, moi. C'est propre du vivant, ça. C'est propre du vivant. Il est en intentionnalité. En intentionnalité au niveau biologique, au niveau sensible, au niveau intentionnel. Alors, comment vais-je préciser l'intentionnalité? Je dis que l'intentionnalité, c'est donc une anticipation du réel. C'est en même temps ce qui est tout tendu, tendu vers le réel. Donc l'intentionnalité, c'est toujours ce qui est second. Par rapport à quelque chose qui est premier. Tout ce qui est second, puisque ça présuppose ce qui est, la vie présuppose ce qui est, ça présuppose ce qui est, et c'est donc dépendant de ce quelque chose de premier, c'est quelque chose qui est en même temps vers quelque chose d'autre, qui va se réaliser. C'est donc quelque chose qui joue le rôle de métaxu, comme on dit en grec. C'est-à-dire d'intermédiaire. L'intentionnalité est essentiellement du domaine de l'intermédiaire. C'est quelque chose qui existe, mais qui n'existe pas premièrement et fondamentalement, C'est pour ça qu'on, ordinairement, on opposera intentionnalité et substantiel. Quand on dit quelque chose est substantiel, on veut dire qu'il est premier, qu'il est fondamental. Quand on dit quelque chose est de l'ordre de l'intentionnalité, on dit que c'est quelque chose de second. Vous voyez, l'opposition entre substantiel, fondamental, premier. Ça, dans tout le langage philosophique, hein, tous les philosophes, pour eux, ce qui est substantiel, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Tandis que l'intentionnel, ah, c'est jamais quelque chose de substantiel. C'est jamais quelque chose de premier. C'est jamais quelque chose de fondamental. C'est toujours quelque chose de second. Ça présuppose un autre. Oui. C'est quelque chose qui est relatif à quelque chose d'autre et qui est tendu vers l'autre. Tout entier tendu vers l'autre. Tendu vers quelque chose qui va se réaliser. Oui, j'essaie de préciser. J'espère que là, ça vous donne un tout petit peu l'idée de ce domaine de l'intentionnalité qui, encore une fois, est un domaine extrêmement difficile à préciser.
Autre question très difficile.
Oui, il en touche des problèmes. Mais c'est pas mauvais, vous voyez, même si on ne fait que toucher ces problèmes-là, parce que ça vous montre, ça vous oblige de faire une espèce de coupe histologique sur le vivant. En voyant que j'ai ma vie biologique, à l'intérieur même de ma vie biologique, il y a tout ce domaine de la virtualité. Le vivant, c'est celui qui anticipe ce qui va venir. C'est du reste très beau comme définition du vivant. Il anticipe. C'est quelqu'un qui devance, toujours. Il est tendu vers. Le propre de la vie est tendu vers.
Oui. Question qui est un peu liée également à l'intentionnalité, mais qui regarde plutôt Freud. Pourquoi ne peut-on dire comme Freud que l'inconscient est premier ?
Ah, mais ça, c'est une grosse question. Oui, c'est la question de la complexité. Je vais vous donner un bon petit exemple d'abord, hein, pour bien vous montrer ce que c'est que l'inconscient. C'est l'exemple que j'ai eu, je vous donne ordinairement, parce qu'il est tellement joli. Il est tellement joli. Ce que c'est que l'inconscient. C'est pas comme moi de savoir ce que c'est que l'inconscient. Et quand vous demandez aux Freudiens, on s'intéresse aux Freudiens. Quand on lit Freud et qu'on n'est pas Freudien, on le lit de l'extérieur. Tandis que quand on a affaire à des Freudiens, on voit qu'ils connaissent ça de l'intérieur. Ils sont habitués à connaître ça. C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de dialoguer avec des gens qui font de l'analyse, freudienne. Un soir, c'était toute une soirée. On l'avait consacré à l'inconscient. Et moi, je faisais à ce moment-là la méthode socratique, vous savez, c'est l'ironie, qu'est-ce que c'est que l'inconscient ? Je savais très bien que jamais je ne pourrais me définir ce que c'est que l'inconscient. Parce que je ne peux pas définir ce que c'est que l'inconscient. Par définition, il est inconscient. Comment voulez-vous définir l'inconscient ? Si vous le définissez, il est conscient. Donc il ne peut pas, c'est absolument impossible de définir l'inconscient. Si vous définissez l'inconscient par le conscient, vous ne définissez pas l'inconscient freudien. Vous définissez l'inconscient tel que moi je le définis. Moi je dis l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Tout simplement, c'est très simple. C'est ce qui... Mais pour un freudien, c'est très mauvais de dire ça. Parce que vous comprenez qu'en disant, et tout de suite voir, si je mets inconscient relatif au conscient, nécessairement le conscient est le premier, l'inconscient est second. Or, justement, le propre de Freud, c'est de mettre l'inconscient en premier. Donc, le conscient se définit en fonction de l'inconscient. Et donc, il faut définir ce que c'est que l'inconscient. En premier lieu. Vous voyez, spontanément, nous, hein, habituellement, les gens de bon sens, n'est-ce pas ? Les gens de bon sens, que, quand vous dites qu'est-ce que c'est que l'inconscient ? Ah, l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Voilà, je crois que ça, on est tous d'accord là-dessus. Il y a du préconscient, oui, il y a du préconscient. Il y a de l'inconscient, de l'intérieur, il y a des degrés, du plus et du moins, c'est évident. Il y a des choses, ah, j'ai pressenti. Ah, j'avais pas, c'est quoi la conscience de ça ? J'ai pressenti. Et il y a du préconscient, puis il y a de l'inconscient, du non-conscient. Et il y a un fond, nous, qui est inconscient. C'est bien évident, on est tous d'accord là-dessus. Mais pour nous, quand on regarde, je dis pour nous dans le sens du bon sens habituel, hein, je regarde le point de vue de l'inconscient se définissant en fonction du conscient. Donc j'essaierai de comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience pour préciser ce que c'est que l'inconscient. Mais je ne peux pas faire ça si je suis freudien. Et vous voyez tout de suite pourquoi. Parce que en faisant ça, je considère que l'inconscient est second et relatif au conscient. Tandis que pour un freudien, l'inconscient est premier et le conscient dépend de l'inconscient. Enfin, petit exemple que je vous avais pris, le fait d'avoir mis le passeport dans la valise et d'arriver à la douane en disant « Ah tiens, il est dans la valise », c'est un acte manqué, donc l'inconscient se révèle à ce moment-là. Il y a donc un inconscient, il y a donc une charge d'inconscient. La charge d'inconscient qui explique des tas de choses. Et la charge d'inconscient provient de refoulement. Pour qu'il y ait l'inconscient, il faut qu'il y ait des refoulements. Et le refoulement, alors, va donner cette charge profonde de ce que c'est que l'inconscient. Donc, on avait discuté très longuement sur ce que c'était que l'inconscient, et là, pratiquement, il me donnait, et moi, c'était tout à fait normal, il me donnait des exemples. On était très fatigués, c'est très fatigant de savoir ce que c'est que l'inconscient. C'est très fatigant de savoir ce que c'est que l'inconscient. Alors, on avait été, pour se reposer, aller regarder les singes, aux os, Vincennes, reposant, c'est la seule manière de se reposer. D'aller regarder les plus petits que nous, quoi. Puis l'inconscient du singe. Est-ce qu'il y a un inconscient chez le singe? Est-ce qu'il y a du conscient? Ou il n'y a que du conscient? La supériorité de l'homme sur le singe, c'est d'avoir l'inconscient. C'est une manière de définir l'homme. C'est-à-dire qu'il a une tête de plus, il a l'inconscient. Tandis que le singe, il est conscient. Il est conscient. Je ne sais pas quelle conscience qu'il a. J'aurais-il que nous avions été aux autres. Nous sommes arrivés là, un spectacle extraordinaire. Ça, je le garderai toute ma vie. C'est extraordinaire. J'étais avec mes psychanalystes. On arrive, on va à l'endroit où vous connaissez un peu, je ne connaissais pas bien. Mais il dit, là, ils vont, ah, très bien, on va à cet endroit-là. C'était très net que c'était des singes méchants. Et il y avait cette chose très étonnante, qu'il y avait le petit qui venait de naître. Alors, la femelle portait son petit, ça fait bien comment un singe porte son petit, c'est très très joli à voir ça. Alors, elle portait ça, elle pudiquement, elle tournait le dos au public, et on voyait le crâne du petit. Donc, tout le monde regardait le crâne du petit. Et puis, à ce moment-là, le mâle s'agitait. Alors, immédiatement, le psychanalyste, il dit, il est jeune, tout le monde regarde le crâne du petit. Alors le mâle se disait, je ne crois pas que c'était ça, je crois que c'était tout simplement parce qu'il avait faim. C'est autre chose, vous voyez, on s'agite quand on a faim. Quand on revient du travail et que la soupe n'est pas là, on s'agite, quoi, quand on se dit, bon, il y a la patience. Alors il était impatient, ce singe. Le mâle, la femelle, pas du tout. Elle portait son petit. Alors, comme c'était des singes méchants, je ne pas présent d'avance, mais on a apporté la nourriture, vous savez, comme on le fait, on n'entre pas dedans et puis on jette comme ça. Alors tout se parpille. Alors on assiste à un spectacle extraordinaire. Le mâle est resté immobile. Alors on a vu la femelle s'avancer en portant toujours son petit. Pour prendre un gros chou, je me souviens très bien, c'était un beau chou qui était là à côté, elle s'avance pour le prendre. Dès qu'elle s'avance pour le prendre, le mâle bondit, prend avant elle le chou. Il a fait ça 5 fois. Il a laissé chaque fois la femelle choisir. Comme si elle devait choisir mieux que lui. Là, les bons morceaux, mais à chaque fois, il a pris les 5 morceaux, comme ça. Puis alors après, il a fait un geste magnanime. Il a laissé 5 morceaux. Il avait un geste, c'était extraordinaire de la laisser. Alors, il y avait à côté de moi un jeune ménage avec une petite fille de 8 ans, qui regardait ça et qui dit à sa mère, « Oh, elle est gentille, la maman. » Et puis alors, le père qui était là, « Dis donc, qu'est-ce qui gagne la croûte ?» assez extraordinaire, comme dès qu'il ne savait pas qu'on avait discuté sur l'inconscient. Vous voyez, le procédé d'identification, c'est l'inconscient. Un inconscient carré. C'était extraordinaire. C'était voyez, on avait dit hein, que c'était joué admirablement, on ne pouvait pas être mieux joué. C'était beau comme spectacle, la réaction. J'entends encore. Mais dis donc, qu'est-ce qui vient de la compagnie ? On voyait, vous voyez, c'était à travers tout ça, il y avait quelque chose de merveilleux, on voyait très très bien ce qui devait se passer constamment au ménage. Hein. C'était tout d'un coup, le rideau tombait. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inconscient ? Pour un freudien, je dis pour un freudien, je crois qu'il y a d'autres explications de l'inconscient. Qu'il y ait des charges d'inconscient, on en a tous. La preuve, c'est qu'il y a ça. Évident. Je crois que toutes les charges de l'inconscient proviennent de l'affectivité. S'il n'y avait pas d'affectivité, il n'y avait pas d'inconscient. C'est les charges d'affectivité. C'est l'inconscient du côté affectif. C'est pas du côté de l'intelligence. Et ça, c'est justement ce que les freudiens ne se précisent pas assez. Parce que les freudiens ne voient pas qu'il y a toujours en nous les deux aspects de notre vie. Le développement du côté de la connaissance et le développement du côté affectif. Et que la conscience vient du côté de la connaissance et que le côté affectif est par lui-même inconscient. Ils ne voient pas ça. Pourtant, c'est élémentaire. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'ils sont contre Descartes et qu'ils n'ont pas dépassé Descartes. C'est vrai, nos côtés passionnels, c'est inconscient, c'est volcanique. Un volcan, c'est quelque chose d'inconscient, ça bondit comme un terrain volcanique. Tandis que la conscience, oui, c'est très conscient, c'est très bien. La conscience est claire, la conscience. Tandis que le côté affectif est par définition inconscient. Or, comme ils ne font pas la distinction, vous comprenez, entre le point de vue de l'intelligence et le point de vue affectif, ils essaient d'expliquer comment naît en nous l'inconscient comme une donnée qui va déterminer notre vie. Alors, c'est à partir du refoulement. C'est très facile à comprendre, tu vois. C'est très facile, c'est à partir des transferts et du refoulement. Vous n'allez qu'à tout simplement penser, c'est le cas classique, n'est-ce pas ? Le gosse a envie d'avoir son biberon. Il a envie d'avoir son biberon. La mère, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas le donner parce qu'il n'est pas chaud. Le gosse crie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit jouet et puis on fait ici du bruit. Alors, le gosse pas s'arrête, ne crie plus. Il y a eu un petit transfert. C'est évident. Il voulait le biberon. Et on va essayer de le distraire, vous voyez, la distraction. Alors, ça va durer un petit moment, pas très longtemps, parce que les cris viendront un peu après. C'est évident, parce que quand il aura faim, l'appétit sera plus fort. Mais pendant un moment, ça s'arrêtera. Vous voyez, petit transfert. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce transfert ? Ça fait que l'appétit initial par rapport au biberon est arrêté. Donc, il y a un refoulement. Vous voyez, tout transfert fait un refoulement. Ça ne peut pas être autrement. Et alors, à ce moment-là, il y a une charge affective plus forte qu'avant. C'est évident, si vous avez fait 36 transferts, la charge affective est plus grande. Et alors, ça rebondit avec une force plus grande. Et c'est ça qui sera l'inconscient. C'est pour ça que l'inconscient sera positif. Et ils diront tout de suite que l'inconscient, pour chercher quel est l'inconscient premier, ce sera de chercher quel est le premier refoulement, le premier complexe. Vous savez, c'est très naïf, hein, Freud. C'est très très naïf, c'est d'une naïveté prodigieuse. Je ne crois pas du tout que c'est la réalité. C'est une idéologie. On va essayer. Ça, c'est une idéologie. Ça, j'en suis maintenant absolument sûr. C'est une construction. Freud est merveilleux. Il est merveilleux en tant qu'il est médecin et qu'il sait être attentif aux malades. Alors ça, il est merveilleux. Il a fait des choses étonnantes là-dessus. Mais quand il veut construire le conscient et l'inconscient, alors là, c'est très net, hein, son conscient, c'est une construction, une vue de l'esprit. Vous voyez, je reviens. Donc l'inconscient, c'est quoi ? C'est tout simplement ce fait que l'appétit premier n'a pas pu atteindre son but. Il a été arrêté. Donc, il s'est replié sur lui-même. Et se repliant sur lui-même, il rebondit avec une force nouvelle, dès qu'il pourra. Dès qu'il pourra, il reviendra tout de suite. Et alors, par le fait même, il y a là un complexe. Je prends l'exemple, vous allez tout de suite comprendre. Hein. Quand vous voyez du lierre qui pousse le long d'un mur, et que vous voyez une petite aspérité dans le mur, qu'est-ce que vous regardez à ce moment-là? Vous voyez que le lierre a eu un moment d'hésitation. Il ne vous l'a pas dit, mais vous regardez. Il y a eu un moment d'hésitation. Il s'est grossi, puis il est reparti. Vous voyez le complexe? C'est très net, vous voyez, c'est ça. Le lierre monte tout droit. Bon, il y a un petit peu, s'il y a un obstacle, alors il va contourner, puis il va repartir. Extraordinaire, ça. Il va contourner, il va repartir. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand il y a l'obstacle? Ah, il va un peu plus gros. Il a été arrêté. Il s'est aussi une des cartes. Regardez, soyez attentifs à ça, c'est intéressant, parce que ça nous fait comprendre, là, on est devant quelque chose de tout à fait naturel, l'instinct naturel du lierre qui pousse. Et voyez l'obstacle. Alors l'obstacle fait qu'à ce moment-là, il est arrêté, momentanément, puis il repart. Vous voyez, le complexe, il est là. Ça fait grossir. Ça augmente la charge. Ça augmente la charge de l'appétit naturel. C'est tout simplement ça. Ça augmente la charge de l'appétit naturel. L'appétit naturel repartira après. Il a été arrêté. Alors, nous expliquons de cette manière-là en disant il y a un appétit naturel. Parce qu'il y a une nature. Pour Freud, il n'y a pas d'appétit naturel. Et c'est là sa construction. Il n'y a pas d'appétit naturel. Il y a le ça initial. Et le ça initial n'est pas une nature. C'est l'indétermination de la plus importante. Alors, il faut comprendre qu'à la place de dire que l'appétit naturel reprend après avoir arrêté, on va dire que l'inconscient va déterminer notre vie. Oui. Et cet inconscient qui détermine notre vie va s'expliquer d'après le premier complexe. Et le premier complexe, c'est le concept de Dieu. Et tout est joué. Une fois que vous avez saisi ça, vous avez tout saisi, et vous saisissez, vous expliquez tout là par là. Premier complexe. Le complexe initial, fondamental, radical. Vous voyez, ça c'est très gros. Hein. Vous savez bien qu'en Amérique actuellement, au fond, Freud est battu en brèche partout. Il n'y a pire qu'en France où on maintient l'orthodoxie freudienne. Mais autrement, partout d'ailleurs, Freud est battu en brèche actuellement, parce qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup trop systématique. Qu'il y ait des choses intéressantes dans Freud, c'est bien évident. C'est tout ce qu'il a fait en tant que médecin. Attentif au médecin. C'est bien comment il a commencé. Et ça, c'est très beau. Je trouve ça très très beau. Ça montre là l'intelligence de Freud. C'était un vrai médecin. Qui aimait ses malades. Quand il est venu à Sainte-Anne, il s'est trouvé devant des malades. À ce moment-là, il n'y avait pas de psychanalyse, il n'y avait que la psychiatrie. Alors, on a sommé ces pauvres gens qui perdaient la tête. On les a sommés d'une manière de façon physique, chimique, ou bien tout simplement matériellement, on leur donnait des coups. Freud a dit, ah non, on respecte un malade. On respecte un malade. Ça, c'est très beau. Et puis, il est entré en conversation avec eux. Oh, on a tous vu des gens qui ont perdu la tête, ils n'ont plus beaucoup de vocables. Hein. Quelques mots qui reviennent. Alors, il a inscrit ces mots. Tel malade m'a dit ce mot. Alors, le lendemain, à la place de venir simplement en lui disant, alors comment ça va? Il a employé les mots du malade. Pour essayer d'entrer en contact avec lui. Et là, en employant les mots que le malade avait dit, il entrait en communication avec lui. C'est pour ça que les bons psychanalystes, les bons freudiens disent le métier de psychanalyste, c'est le métier de scaphandrier. J'aime beaucoup l'expression. On est en dessous du niveau de la mer, on est quelquefois dans les profondeurs, on n'a plus que très peu de choses, plus de contact du tout avec les êtres. On est entièrement fermé en soi, alors il s'agit de ramener la surface de l'eau. C'est ça le métier du psychiatre, du psychanalyste. C'est de ramener la surface de l'eau en se servant du langage de l'autre pour essayer petit à petit de retrouver une relation. Alors ça, c'était très beau comme idée, mais ce n'est pas à partir de là que je peux émettre tout un système sur l'homme. Oui, parce que je ne peux pas, à partir du malade, redécouvrir l'homme. Je découvre l'homme pour comprendre ce que c'est que le malade. Freud a voulu comprendre l'homme à partir du malade. Et ça, c'est toute l'erreur. Philosophiquement, c'est toute l'erreur. Il a voulu comprendre l'homme à partir du malade. Et il a regardé le malade, il a vu ce qu'était le malade et les réflexes instinctifs du malade, et à partir de là, il a essayé de comprendre sa théorie de l'inconscient, et c'est cette théorie de l'inconscient qui a été expliquée. L'homme se divise en conscient et inconscient. Alors, l'inconscient, il se développe durant la nuit, c'est le plaisir. Le conscient, il se développe durant la journée, c'est le devoir. Alors, en l'homme, il y a le plaisir et le devoir. Le plaisir est premier et fondamental, le devoir est conventionnel. Oui. Et donc, il faut libérer quelqu'un de cette question du devoir qui est beaucoup trop forte et qui l'étouffe. Et donc, il faut le libérer, le remettre dans le plaisir. Libération des instincts. Oui, pour le redonner le point de vue, parce qu'au fond, tous les complexes ont arrêté l'instinct. Or, c'est l'instinct qui est la force la plus fondamentale qui est dans l'être humain. Et comme l'instinct le plus fondamental, c'est l'instinct sexuel, c'est donc l'instinct sexuel qui va expliquer l'homme. Oui. Il y a une logique interne, c'est très facile une fois qu'on a compris ça. Il y a une logique interne qui fait qu'on voit très très bien le point de vue de l'inconscient et du conscient. Le conscient, c'est le devoir, l'inconscient, c'est le plaisir. Libérer l'inconscient pour que vous soyez vous-même. Alors, l'instinct fondamental, c'est l'instinct sexuel, et donc c'est cela qui va tout expliquer. Oui. La société a arrêté par ses totems, par ses interdits, a arrêté le point de vue spontané de l'instinct sexuel qui voulait s'exprimer, qui voulait dire. Alors, par le fait même, il y a eu tous les complexes qui se sont faits. Et nous sommes un tissu de complexes. Oui. L'éducation, c'est un tissu de complexes. C'est pour ça qu'à partir de Freud, on n'a plus osé exercer l'autorité. Parce que quand on exerce l'autorité, on fait nécessairement un complexe. Vous allez contre l'instinct. Mais j'ai vu des psychanalystes en 68 qui m'ont dit « Nous sommes coupables de 68. » Parce que de fait, on a supprimé l'éducation et l'autorité. On a tué l'autorité. En tuant l'autorité, on a cru libérer et on a fait qu'il n'y ait plus aucune force. Et c'est vrai, ça. Si vous supprimez l'autorité, vous supprimez la capacité de sécurité et de force. On ne peut être fort que lorsqu'on s'appuie sur l'autorité. Alors évidemment, l'autorité peut être aussi quelque chose qui n'est pas commun du tout, hein. Parce que c'est pas commode d'obéir. Alors l'obéissance exige quelque chose d'autre. Mais supprimer l'autorité, c'est affaiblir un être. C'est le livrer à lui-même, c'est l'affaiblir. Et donc c'est faire qu'un être n'a plus aucune force de conquête. Quand l'autorité n'est plus là. Et alors c'est la libération de l'instinct qui affaiblit. C'est uniquement le plaisir immédiat. Il faut saisir ça, c'est intéressant, évidemment, on voit très bien que le freudisme était en face d'une morale du devoir poussée à l'extrême, la morale de Kant, dans laquelle il n'y avait aucun plaisir, il n'y avait que le devoir, tu dois faire ça. Alors quand il n'y a plus cette question du devoir, le plaisir n'existe plus. Dans une véritable éducation, il doit y avoir une dose de plaisir pour que le devoir puisse apparaître. Mais le plaisir, ce n'est pas du tout l'inconscient. Le plaisir, c'est tout simplement l'appétit naturel qui cherche son bien immédiat. C'est ça le plaisir au niveau sensible, au niveau passionnel. Vous voyez, c'est un problème très très vaste, la question du conscient et de l'inconscient. Alors, ce qu'il faut bien saisir, c'est que l'inconscient chez Freud a quelque chose de positif. parce qu'ils proviennent des complexes. Et que pour Freud, l'inconscient détermine. Et qu'on doit libérer l'inconscient pour que l'instinct puisse déterminer.
Il y a encore une question ? Oui. Ah, c'est pour vous, moi ça m'est égal. On pose la question, si vous préférez qu'on fasse une pause, maintenant, de 5 minutes. Les descriptions que donne Freud sont souvent remarquables, les descriptions qu'il donne des malades. Où il y a la faille, c'est lorsque, à partir de ces expériences, il veut avoir une vision philosophique de l'homme. Et cette vision philosophique, il l'a fait à partir, vous voyez, c'est ça qui est là le défaut de la cuirasse, il l'a fait à partir de l'expérience clinique qu'il a des malades. Vous voyez, c'est à partir de l'expérience clinique des malades. Je disais tout à l'heure, parce que ça peut être très éclairant, si vous voulez. Quand j'ai commencé ce dialogue avec eux, ils sont venus me chercher en me disant « Vous êtes aristotélicien, nous le savons par des amis, donc votre philosophie est à partir d'expérience. Nous sommes des hommes d'expérience aussi, donc on doit pouvoir s'entendre. » J'ai dit « Oui, sûrement. Un vrai philosophe n'a pas le droit d'exclure une expérience. Donc l'expérience que vous avez de vos malades m'intéresse beaucoup. » Et c'est vrai, ça m'intéresse beaucoup. Je ne considère pas du tout que la psychanalyse est une... Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que ça peut être. Mais évidemment, je ne construis pas. Alors, vous voyez, nous étions partis de là. Nous pouvons nous entendre puisque nous respectons l'expérience. J'ai vu au bout d'un certain temps que nous n'étions pas du tout le même contenu objectif sur le mot « expérience ». Moi, je considère l'expérience que j'ai dans le travail, dans l'amour d'amitié, dans le fait de coopérer. L'expérience d'un homme habituel. Tandis que, eux, l'expérience était l'expérience clinique. Donc, l'expérience clinique est une expérience, mais ce n'est pas l'expérience humaine. L'expérience clinique, du reste, c'est le médecin qui l'a fait, c'est pas le patient. C'est là la grosse différence aussi. C'est le médecin qui dirige le malade et qui l'a fait. Alors je vais vous donner encore un autre petit exemple pour que vous compreniez, parce que c'est tellement important de comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, on peut assez facilement saisir les limites du freudisme. Parce qu'il y a des choses bonnes, mais il y a une limite. Une limite qui va très loin. On avait dit, au point de départ, nous amènerons nos amis. Parce que pour ne pas être seul, un philosophe ou deux philosophes, on était deux philosophes. Deux philosophes en face des psychanalystes, ça n'aurait pas été très drôle. Hein. Il fallait un peu de mousse. Alors on avait amené nos amis. Moi j'avais amené des amis qui s'intéressaient à ça. Bon, quand c'est terminé, au bout de deux heures et demie, ça durait toujours à peu près 2h30, 2h30 de réflexion, les amis s'en vont. On reste uniquement les psychanalystes et les philosophes. J'étais resté seul là, mon ami était parti. Alors, immédiatement, oh père, les amis que vous avez apportés, un petit coup d'analyse, ça ferait du bien. Alors j'ai dit, écoutez, attention, nous avons dit, nous apportons, nous allons amener nos amis. Je ne vous ai pas amené des clients. Donc, je commence à voir que pour vous, l'expérience humaine se ramène à l'expérience clinique. Parce que j'avais vu au bout d'un certain temps, assez vite, on fait ça. Et alors là, j'ai vu ça tout de suite, immédiatement. Incapacité de regarder une personne qu'on ne connaît pas, mais qui est quand même un ami. Quand on aime un ami, on respecte l'ami. Pas du tout. Vous allez tout de suite regarder dans le prisme. L'expérience clinique. Oh, j'ai besoin d'une petite analyse. On voit très bien ça. Alors, vous comprenez que c'est très désagréable, ça. C'est que l'humus humain disparaît et vous êtes tout de suite dans une clinique.
Alors, j'ai dit, attention, moi, je n'entre pas dans une clinique psychanalytique. Hein. Je viens discuter librement avec vous. Et puis, mes amis aussi, si vous commencez à perdre la discussion, non, je ne veux pas ça. Je veux que nous soyons librement des aventuriers. On avait pris ça comme point de départ. Hein. On irait jusqu'au bout de nos discussions. Et je vous affirme que quelquefois, c'était, on se demandait si on allait se revoir 15 jours après. Parce que c'était assez brutal. Hein. Assez brutal comme discussion, comme des intellectuels qui discutent. L'irascible est toujours très développé. Et quand l'irascible est très très développé, eh bien, on s'attrape violemment. Hein, en disant qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui ne saisissent pas. Le plus grand éloge qu'ils m'ont fait à la fin de ces 15 ans, ils disent, vous avez raté votre métier, vous avez une psychanalyste. j'ai beaucoup mieux. Parce que c'est vrai, on faisait une analyse de l'intelligence qui ne faisait absolument pas. C'est ça la grande faiblesse pour moi, Freud. Il faut mettre Freud et Piaget. Piaget, c'est l'intelligence, Freud, c'est l'affectivité. Ce sont les deux psychologues qui sont en contradiction constante l'un par rapport à l'autre, parce que l'un regarde tout l'homme par le point de vue de l'affectivité et l'instinct, tandis que l'autre regarde tout l'homme uniquement par le point de vue de la connaissance mathématique. Alors Piaget et Freud se complètent merveilleusement, et il faut les comprendre ensemble. Mais tous les deux sont positivistes, parce que Freud est positiviste et Piaget est positiviste. Tous les deux sont positivistes. C'est-à-dire que tous les deux ne saisissent pas vraiment ce que c'est que l'esprit. Freud ne sait pas ce que c'est que l'esprit. Ça, absolument pas. Il y a une méconnaissance complète de ce que c'est que l'esprit. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de véritable amitié. La seule chose que j'ai essayé d'établir entre ces Freudiens et moi-même, c'était une amitié. Et je me suis dit, le jour où on établira une véritable amitié entre nous, ils ne seront plus Freudiens. Et c'est ce qui s'est passé, exactement qu'avec un marxiste. Quand vous établissez une véritable amitié avec un marxiste, il n'est plus marxiste. Parce qu'il reconnaît qu'il y a autre chose, il y a une amitié. Et l'amitié, c'est la manifestation première, on verra ça, c'est très intéressant. C'est la manifestation de l'esprit. Donc vous voyez, ce que je vous dis là, c'est des choses un peu... Forcément, c'est un peu décousu, n'est-ce pas ? On ne peut pas trop regarder ce que c'est que l'inconscient. Mais ce qui est important, c'est de voir que l'inconscient, chez un psychanalyste, chez un freudien, c'est quelque chose de positif. Et que le conscient est second par rapport à l'inconscient. Le devoir est second par rapport au plaisir. Il y a quelque chose de juste, et ce n'est pas entièrement juste. Parce que le devoir, prenez, si vous preniez la joie, et non pas le plaisir. La joie spirituelle, alors c'est différent. Mais si vous prenez le plaisir uniquement au niveau de l'instinct sexuel, vous comprenez bien que le devoir est plus que ce plaisir du pouvoir de l'instinct sexuel. Et construire le devoir à partir de là, c'est quand même pas quelque chose de typiquement humain. Ça, on verra ça progressivement. Bon, il y a autre chose alors maintenant. Dites.
Le cerveau ne serait-il pas suffisant pour expliquer l'unité de mes diverses opérations vitales ? Ne peut-on pas remplacer l'âme par le cerveau ?
Là, c'est très très bien. Ça, c'est la réduction, n'est-ce pas, par le point de vue au niveau matériel. Mais il faut se poser la question, parce que des quantités de gens disent ça. Ça, c'est courant. Dans le milieu médical, c'est courant. Je me souviens, on a fait une discussion avec des médecins de Paris, où tout d'un coup, dans la conversation, je parle de l'esprit. Alors je vois un médecin à côté de moi qui me ricane, mais peur, vous parlez de l'esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire l'esprit ? Alors heureusement qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit vous aide à répondre du tac au tac. J'ai dit évidemment, quand on en a pas, on ne sait pas ce que c'est. Tout le monde a éclaté de rire et c'était gagné. Parce qu'on a très bien compris qu'en effet, l'esprit, mais puisqu'on parle, puisque vous parlez, l'esprit est présent. C'est évident. Alors quand on en a pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais il faut de temps en temps l'argument ad hominem. Hein. L'argument ad hominem, ça ne prouve rien. mais ça fait tomber les murs. C'était extraordinaire, ça, je n'avais pas pensé d'avance, hein, parce que c'est un argument comme ça, l'esprit d'intelligence. Oui, je crois que l'intelligence existe, que la science existe, parce que je parle. Si je parle, ça prouve qu'il y a derrière moi l'intelligence. Et si je, dans ma parole, il y a des mots qui ont une signification universelle, ça ne peut pas se ramener au cerveau. Parce que mon cerveau est individuel. Tout simplement ça. Mon cerveau est individuel. Bien évidemment, mon cerveau est là. Il est individuel. Et donc vous ne pouvez pas expliquer ce dépassement du monde physique par le problème de la signification du langage. Je ne prends que cela, mais le langage, la signification du langage. Nous arrivons à peu près à nous entendre, bien que nous avons des langages très différents les uns des autres, puisque j'ai mon langage philosophique que j'essaie d'amenuiser le plus que je peux pour qu'il puisse vous atteindre, mais nous arrivons à nous entendre, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, pas besoin de petit écureuil. On arrive à s'entendre. Nos mots, au bout d'un certain temps, arrivent à s'entendre. Il y a un contenu universel de nos mots, où le problème de la signification peut se faire. C'est quand même très extraordinaire, le problème de la signification. Quand vous dites « chat », ça signifie quelque chose. Et le petit gosse arrive assez vite à comprendre ce que c'est qu'un chat. C'est quand même extraordinaire, la signification du chat. La signification de l'animal. Eh bien, vous ne pouvez pas expliquer le mot « animal » par le cerveau. Je regrette, c'est impossible. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous pouvez expliquer le conditionnement de la pensée par le cerveau, mais vous ne pouvez pas expliquer le contenu de la parole et le contenu de la science par le cerveau. Absolument impossible. Pourquoi ? Parce que le cerveau est tout simplement d'ordre physique. Il est tout simplement d'ordre de relation physique. Individuel. Or, la science touche quelque chose de nécessaire et d'universel. Or, le nécessaire et l'universel ne s'expliquent pas par l'individuel biologique. Si évolué qu'il soit, le cerveau, c'est ce qu'il y a de plus évolué dans notre biologie. Ça, tout à fait d'accord. C'est merveilleusement évolué, le cerveau. C'est vrai, c'est extraordinaire. C'est très étonnant, regarder un cerveau humain. Comme développement, n'est-ce pas ? Parce que c'est l'ordinateur n'arrive pas à la complexité du cerveau. La complexité du cerveau est quand même quelque chose d'inouï. C'est merveilleux, mais ça reste matériel, ça reste biologique. Et donc je reste dans le domaine de l'individuel. Qu'il y a des réactions chimiques, c'est très vrai. Et que je peux très bien, dans certains cas, faire que le cerveau ne pourra plus fonctionner. Donc, le cerveau est absolument nécessaire pour l'exercice de mon intelligence, mais n'explique pas le contenu de ma vie intellectuelle. Le cerveau n'explique pas ce que c'est que la conscience. Absolument pas. La conscience est au-delà du cerveau. Pourquoi ? Parce que la conscience implique cette possibilité de réflexion sur ce que je connais. Or, quand je suis dans le domaine physique implique toujours une extériorité, même le cerveau, une extériorité. Or, si je suis uniquement dans l'extériorité, je suis dans un domaine quantitatif. Et la conscience dépasse le domaine purement de la juxtaposition quantitative. Vous voyez comment on peut tout de suite, hein, ça, c'est, les arguments sont nets. Il suffit de prendre tout simplement la réflexion, la conscience, le langage, l'art. Expliquer l'art par le cerveau. Je ne peux pas expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer la science. C'est ce que me disait un physicien qui est enseigné à Lausanne, que je connaissais bien, qui était un ami. Et là, il me disait, je dis toujours à mes étudiants de physique, vous regardez toujours la matière, vous mesurez la matière, mais n'oubliez pas que c'est vous qui la mesurez. Et quand vous mesurez la matière, vous êtes au-delà de la matière. Le phénomène de la mensuration de la matière n'est pas la matière. Le phénomène de votre connaissance physique n'est pas le contenu physique. C'est quelque chose d'autre. Et il avait parfaitement raison, ça, il avait très très bien saisi. Pour essayer de sortir du positivisme, pour essayer de comprendre que de fait, le positivisme, c'est de uniquement regarder les effets, c'est de regarder l'aspect matériel des choses, mais le positivisme est plus que son affirmation du positiviste. Toujours, l'homme est plus que les idéologies. Et l'homme, c'est le savant. L'homme, c'est le physicien. L'homme, c'est celui qui mesure. Et là, il y a quelque chose qui est au-delà de l'aspect purement physique. C'est au fond une prise de conscience de ce que c'est que l'homme. Et une prise de conscience de ce que c'est que l'homme ne s'explique pas par le cerveau. Mais le cerveau conditionne, ah, tout à fait d'accord. Et par le conditionnement, je peux très bien arriver à faire un obstacle. Tout à fait d'accord, ça c'est évident. C'est la cause matérielle de toute connaissance, le cerveau. Je ne peux pas connaître sans le cerveau, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas connaître sans le cerveau que la condition sine qua non explique la réalité. La condition n'explique rien. Mais c'est une condition nécessaire, mais ça n'explique rien. Ça ne me dit absolument rien de la chose. C'est simplement un élément nécessaire pour que la réalité puisse apparaître. Oui, j'espère que vous comprenez ça, ce genre de raisonnement, qui est un raisonnement critique, mais qui est un raisonnement nécessaire à faire quand on est en face de cette matérialisation de la vie.
Une question très proche, liée à la précédente. Si on admet le cerveau comme source d'unité de faculté, l'handicapé mental n'a plus cette dignité de l'homme. Que dire de la dignité d'un débile profond philosophiquement? L'handicapé a-t-il une vie spirituelle?
Et ça, on touche un problème extrêmement important et intéressant. La dignité de l'homme, ce n'est pas la conscience. La dignité de l'homme, c'est d'avoir une âme spirituelle. C'est la dignité de l'homme. La conscience, c'est la manifestation de cette dignité. Ce n'est pas cette dignité. Ça, c'est très important. On a touché toutes ces questions-là à propos de l'avortement. Vous voyez ? Et on a dit, le petit embryon n'a pas conscience, donc c'est pas un homme. Ah non, c'est pas le raisonnement du tout.